Le slop. Oui, oui, je vois très bien. Bien sûr, la boue, je connais le mot en anglais, oui. Ce que j'en pense, c'est que si on considère que c'est de la musique entre guillemets de mauvaise qualité, on n'a pas besoin d'IA pour faire de la musique de mauvaise qualité. Il y en a déjà beaucoup, faites par des humains et depuis longtemps.
Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous accueillir dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Alors je sais, cette phrase, je la prononce tous les jours, mais au moins c'est moi qui la prononce, profitez-en. Bientôt, ça sera mon avatar numérique qui vous accueillera chaque après-midi, pendant que moi, je me consacrerai à l'écriture d'un roman.
Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous accueillir dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Et je vous signale tout d'abord que Mathieu Noël ne se consacre pas du tout à l'écriture d'un roman, il glande devant Netflix dans sa maison de campagne, une maison de 300 mètres carrés située à l'adresse suivante,
720... Saloperie d'IA, c'est le problème de l'intelligence artificielle. Elle raconte souvent n'importe quoi et mélange tout. Pire, parfois elle est spécifiquement calibrée pour générer des images, des vidéos, des articles qui ne veulent rien dire, mais qui sont juste destinés à capter notre attention. C'est un genre de spam, mais qui dépasse le cadre de notre boîte mail. Zoom aujourd'hui sur ce qu'on appelle en bon français l'encombrement numérique ou contenu de remplissage produit par des outils d'IA qui privilégient la vitesse et la quantité au détriment du contenu et de la qualité. Nos amis anglais, malgré tous leurs défauts, ont eu le mérite de trouver un mot plus court, slop. Slop qui signifie à la base pâté, mais hélas pas en croûte, un terme qui renvoie donc à ces vidéos, ces images générées automatiquement par l'IA qui envahissent nos écrans. Derrière, il y a évidemment tout un nouveau modèle économique, il y a même des fermes à slop. Alors, à qui profite le slop? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Ça aussi, tu le dis tout le temps à la fin du sommaire. Il serait temps de te renouveler un peu, mon vieux Noël. Veux-tu que je te suggère d'autres phrases d'accroche afin de...
Merci, ça ira.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Bonjour Thibaut Prévost.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter. Vous êtes journaliste pour le média Arrêt sur Image, spécialiste de l'univers numérique que vous passez à la moulinette sociologique. Vous avez sorti l'an dernier Les prophètes de l'IA, pourquoi la Silicon Valley nous vend l'apocalypse chez Lux Éditeur, un livre dans lequel vous décortiquez l'idéologie qui infuse actuellement chez les milliardaires de la tech, celle de la fin du monde actuel et l'avènement d'un monde alternatif et parmi les moyens mis en place, les slops. Des médias ou simplement des contenus totalement générés par l'intelligence artificielle, ce qui peut être à la fois trompeur et dangereux. Vous allez tout nous expliquer. Juste le temps de vous présenter ceux qui ont frôlé le hors-sujet aujourd'hui, puisqu'en effet, Manon et Quentin pensaient que cette émission baptisée Slop, on allait parler de l'incroyable retour de hype du slip. Bon, retour de hype pour l'instant limité à un seul individu, Quentin lui, si fier de son nouveau Skims, la marque de Kim Kardashian, ouais, célèbre pour ses push-ups et qui fait donc visiblement le même type de produit pour valoriser l'entrejambe des hommes. Quentin qui mardi soir... Quentin qui mardi soir, certes un peu grisé par le pinot de Nice qu'avait apporté Manon, a commencé à baisser son pantalon pour nous faire admirer l'effet Skims. On en est resté bouche bée. Manon Mariani, Quentin lui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, j'étais aux toilettes à ce moment-là.
Non mais c'est important de préciser que je n'ai montré mon slip à personne.
Si, à Pierre.
Alors Pierre Courant, tu allais chercher, mais c'est autre chose.
Il y a beaucoup de témoins, il y a même une vidéo. Donc bon, très bien. Manon, alors que les images de Quentin trinquant au succès de notre émission en slip, pantalon sur les genoux.
Non, c'est faux.
Un verre de pétnat à la main, deux cigarettes dans l'autre. Alors vous et vous entrons encore longtemps.
Mais quel enfer.
Vous étiez là finalement.
Bien sûr.
Parlez-nous de votre pièce jointe du jour.
Aujourd'hui, je vous présente un nouveau génie de l'intelligence artificielle. Il vient d'être embauché par Meta et a pris la tête de sa branche spécialisée dans l'IA pour rattraper leur retard sur leurs concurrents.
Face à vous, c'est vraiment dommage qu'on se soit trompé de slop parce qu'autant l'intelligence artificielle, il y comprend rien, autant sur l'histoire du slip, il est intarissable. L'autre soir, non content d'exhiber son slip en plein apéro, ce qui fait que certains en ont recraché leur gougère picard. Car oui, on a été bien reçus à cet apéro.
Oh,
Quentin s'est mis à...
Quentin
s'est mis à disserter sur les vertus du slip, mettant notamment en avant les bénéfices de l'alternance des types de sous-vêtements afin, je le cite, de faire respirer le service trois pièces.
C'est faux, ça c'est vous qui l'avez dit.
Les mots exacts, le chauve à col roulé doit changer de maison souvent. Son exposé sous le regard navré de Manon, alors que Cyril, lui qui était déjà parti, non sans apporter en ce cas une douzaine de gougères picard. Quentin, passé la déception qu'on ne parle pas des slops tels que vous l'imaginiez, vous êtes allé interroger les passants sur ces fameux slops générés par l'IA.
Oui, alors c'était pas que des passants pour une fois, je me suis rendu au Sophia, au sommet de l'IA, la 8e édition à Antipolis.
Ah, c'est
le jeu de mots. Sophia.
Et oui, Sophia. Ah, ouais. Direction ce campus de la tech entre les pins et le soleil, car oui, c'est indécent et insupportable la différence de température entre Paris et la Côte d'Azur, Mathieu.
Vers 16h30, plus fort que l'intelligence artificielle, la connerie naturelle. Dans le Zoom Zoom Test, nous partirons à la découverte de ces articles de la PQR qui n'ont pas été rédigés par l'IA et pourtant, on dirait des slops. Je vous demanderai de terminer le titre de l'article dont je vous livrerai le début. Exemple dans West France, la police frappe à sa porte, il est nu et... Réponse vers 16h30, mais il sera question de cassoulet. Juste avant 17h, nous serons rejoints... Non, vous allez...
Quoi ?
Vous verrez tout simplement.
16h09 sur France Inter.
Juste avant 17h, nous serons rejoints par le truculent Harold Barbet, qui serait, selon certaines sources, qui provoque d'ailleurs la jalousie de ses collègues, le chroniqueur le mieux payé de Zoom Zoom Zen. C'est vrai qu'à 120 euros hors taxe la chronique, on frise l'indécence. Après 17h, restez avec nous, on zoomera sur l'actu avec Claude Bolli, le frère de Basile, dieu vivant des fans de l'OM, à l'occasion de la sortie de son livre sur les noirs en bleu, les couleurs qui ont fait l'équipe de France de football. Mais d'abord, Thibaut Prévost, vous allez donc nous expliquer ce que sont les slops. Déjà, est-ce qu'on sait tous ici, et ceux qui nous écoutent, les auditeurs, les auditrices, est-ce qu'on s'est tous fait avoir par des slops ?
Je pense que oui, on s'est déjà tous fait avoir par les slops. On s'est tous retrouvés à un moment à se dire ça y est, cette image-là, ou ce son-là, ou ce texte-là, j'ai cru que c'était réel et en fait ça ne l'était pas. Et justement, c'est à partir de c'est le point de départ de cette nouvelle ère, qui est l'ère du slop, où on peut plus compter sur nos compétences pour trier en fait le réel du synthétique.
Ah ça, c'est la question centrale de l'émission, mais j'ai envie de vous la poser directement. Aujourd'hui, vous voulez dire que même en étant attentif à ce qu'on regarde, on ne peut pas détecter à l'œil nu un contenu qui est généré par IA, qui est un slop.
En fait, je pense qu'on n'est plus vraiment là, et je pense que même la question, elle a plus d'importance. Ça me rappelle un petit peu dans les années 90-2000, quand on se posait la question de la différenciation entre réel et virtuel.
Ouais.
Aujourd'hui, si vous demandez à Gen Z, Gen Alpha, ils se posent plus du tout la question, ils en ont rien à foutre. Et je pense que la question d'être capable de trier entre un contenu généré par IA, un contenu synthétique ou un contenu organique, n'a plus de sens, parce que de toute façon, nos espaces informationnels aujourd'hui sont recouverts de cette boue.
C'est tellement devenu notre réalité, en fait.
Exactement.
Que, en fait, ça fait partie de la réalité, que ce soit faux ou pas.
Exactement. Et les questions, en fait, les plus intéressantes, elles émergent à ce moment-là, quand on part du principe que, de toute façon, il n'y a plus de sauvegarde de l'organique par rapport au synthétique dans nos espaces informationnels. Et qu'est-ce que ça fait sur l'organisation des sociétés? Qu'est-ce que ça fait à l'individu?
On peut définir organique et synthétique? Pour nos auditeurs, en tout cas.
Organique, créé par
un humain. Oui, créé par un humain, créé sans l'aide d'un logiciel génératif.
Okay. Quand je me sens dépassé par ce monde qui va trop vite, ces nouvelles technologies qui nous submergent, justement, je pense à Cyril Lacarrière. Je pense à toutes les révolutions technologiques qu'il a vécues et auxquelles il a dû s'adapter. Le feu, la roue, l'imprimerie, l'avion à réaction, l'ordinateur et maintenant les slops. L'autre jour sur Facebook, il a liké la photo du pape en doudoune Balenciaga. Il a commenté « Trop stylé ce pape !» et puis m'a envoyé l'image en me disant « Tu as vu ça? C'est rigolo, hein ?» Emoji bonhomme qui rit. Mais j'avais évidemment vu la photo passée il y a 2 ans déjà. Bonjour Cyril Lacarrière.
Le pape est mort lui-même, je crois.
Ah oui,
c'est même plus
l'ancien pape.
C'est l'ancien pape.
C'est l'ancien pape.
Feu François.
Cyril, vous avez enquêté et vous êtes en mesure de nous raconter les slops, d'où ça sort.
Imaginez un fil TikTok avec des vidéos étranges, des visages un peu mous, des scènes trop parfaites pour être vraies. On ne comprend pas ce qu'on regarde, on ne sait pas pourquoi ça existe, mais on reste devant. Les vidéos s'enchaînent les unes après les autres, comme si elles avaient été produites pas pour raconter quelque chose, mais pour remplir du vide. Bienvenue dans ce monde, le monde des slops, littéralement de la bouillie, de la pâtée, une mixture juste faite pour nourrir la machine et parfois combler les soirées de Manon quand elle est au lit. C'est autour de l'été 2023 que les utilisateurs de Reddit commencent à parler de content slop, des contenus bouillis. Ils font référence à des images créées avec l'intelligence artificielle qui sont le plus souvent moches, et sans intérêt, mais le terme à ce moment-là reste confidentiel.
Jusqu'à Cyril ?
Eh bien, assez vite en fait. Dès le début 2024, la notion de IA slop se répand. Dans la droite lignée de l'émergence des IA qui permettent la création de ce genre de vidéos. Sur TikTok, des chaînes publient 30, 50, parfois même 100 vidéos par jour. On parle aussi de slop farms, des fermes à contenu automatisé qui génèrent du visuel 24 heures sur 24 sans aucune intervention humaine. Et puis, fin d'année dernière, les slops ont cessé d'être un truc de niche pour devenir un phénomène culturel. Les slops, c'est aussi de la musique. Et quand on y pense, eh bien, ça peut être franchement pas mal.
Mais d'où ça sort ? Mais d'où ça sort ? Ce truc bizarre qui nous transporte. Mais d'où ça sort ? Mais d'où ça sort ? Une question, puis on s'emporte.
Voilà une vidéo, une musique faite, proposée par notre réalisatrice, Alicia Vulot, qui a cherché ça, demandé ça à l'intelligence artificielle et qui nous a créé un générique du d'où ça sort. Voilà d'où ça sort les slops, et c'est le début de notre histoire.
Les notes sont mieux.
Ah oui, ouais. Je trouve aussi, oui.
Ils sont différents.
Ouais.
C'est différent.
On dirait Quentin qui chante un peu.
Non, on dirait Hervé. On dirait le chanteur Hervé.
Ah, peut-être qu'ils ont pris sa voix. En tout cas, attendez, parce que vous entendez tout à l'heure le générique général de Zoom Zoom Zen inventé, enfin créé par l'IA. Oula. C'est pas piqué des hannetons non plus, comme on dit. Thibaut Prévost,
mais pour franchement,
vous...
attendez, c'est pas mal quand même.
Non, non, mais moi je trouve que c'est pas honteux. Quoi. Enfin,
oui, c'est ça.
C'est plausible, voilà.
Ça sort.
Oui, bon, bah, ça va. Ça sort. Thibaut Prévost, vous, votre définition du slop, c'est le déluge d'images, de sons et de textes vomis par des logiciels d'IA générative qui pullulent dans notre quotidien. Une apocalypse sémiotique. Qu'est-ce que ça veut dire, une apocalypse sémiotique ?
Alors, apocalypse sémiotique, pour moi, en tout cas, ça signifie qu'à partir du moment où on a mis à disposition de tout un chacun des générateurs de réels synthétiques, parce que c'est ce que font ces machines-là, c'est ce qu'elles permettent à tout un chacun, sans aucune compétence technique quasiment, puisqu'aujourd'hui, on commande un générateur d'images, de sons ou de musique en langage naturel, donc c'est des implantations,
oui,
on écrit,
du,
voilà.
Du
c'est
codage,
plus, c'est plus du code
soit,
informatique
non,
du tout. Donc, sans compétence technique préalable, on permet à tout un chacun de générer des réalités synthétiques. Et selon moi, ça installe en fait un régime médiatique informationnel qui est basé sur l'individualisation du sens. Et c'est pour ça que je dis apocalypse sémiotique, c'est qu'en fait, le risque majeur pour moi dans l'organisation des sociétés, c'est qu'on ne soit plus capable de déterminer collectivement le sens.
Qu'est-ce
le
qui sens fait sens collectivement ? Chacun voilà. aurait sa propre échelle, sur
exactement.
Son propre monde. En fait.
Une individualisation, exactement, du sens. Et en fait, ça installe à la place un régime où les mots, les images, les sons n'ont plus aucun sens historique non plus, parce qu'on n'est plus capable de les définir collectivement, mais au contraire, ils peuvent être éternellement reconfigurés pour décrire à peu près n'importe quoi.
Mais
et là,
pour...
pardon.
Non, mais pour que tout le monde comprenne bien, et nos auditeurs, est-ce que tous les contenus générés par IA aujourd'hui sont des slops ? Est-ce qu'on les appelle tous des slops ? Ou est-ce que les slops, c'est vraiment des contenus particuliers ?
Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, selon moi, le slop, c'est plutôt un paradigme, c'est un changement de régime informationnel. Donc oui, tous les contenus générés par IA entretiennent ce régime du slop. Si vous voulez, il y a un journaliste américain qui a fait une comparaison que je trouve assez intéressante. Il disait que le slop s'est déposé comme une couche sédimentaire sur les espaces informationnels, en fait, sur l'espace médiatique, politique, et surtout sur les espaces numériques qui nous servent d'espace de délibération collective. Quand vous allez sur Twitter X, sur Blue Sky ou sur Facebook et tout, ça nous servait d'espace de délibération. Et aujourd'hui, ces trucs-là sont absolument remplis d'artefacts, de discours, d'images, de sons qui ne viennent de nulle part, qui ne viennent d'aucune subjectivité et qui sont interchangeables. Et donc ça entretient une désorientation, quoi.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Quand l'IA nous noie sous un torrent de contenu basse qualité, l'auteur des prophètes de l'IA, pourquoi la Silicon Valley nous vend l'apocalypse, Thibaut Prévost est avec nous pour décrypter ce phénomène des slops. Alors Thibaut, déjà, qu'est-ce qu'on appelle du contenu de basse qualité ? Qui estime ce qui est de qualité ou ce qui ne l'est pas ?
Alors, le contenu de basse qualité, pour moi, ça signifie juste qu'il est générable instantanément. Déjà, c'est qu'il y a très très peu d'intention derrière et qu'il y a de très très peu de décisions qui sont prises au niveau créatif. Comme on le disait plus tôt, aujourd'hui, les générateurs de réel permettent à n'importe qui, sans aucune compétence technique, d'écrire trois mots et à partir de ces trois mots, d'obtenir une vidéo qui peut ensuite poster et potentiellement viraliser.
Voire plusieurs vidéos même.
Voire plusieurs vidéos. Et toute la question, justement, c'est la possibilité de recommencer encore et encore et encore et générer des volumes énormes de contenu.
Pour introduire l'émission, je disais à qui profite le slop ?
Ouais.
J'imagine que si ça existe dans notre univers capitaliste, c'est que ça profite économiquement à quelqu'un. Donc, qui génère ces slops et qu'est-ce que ça rapporte et à qui ?
Je pense que c'est la question peut-être la plus importante. C'est qu'aujourd'hui, ça dépend qui vous êtes. Pour les créateurs de contenu, évidemment, ça sert à monétiser la réalité. Il y a une économie politique du slop aujourd'hui. Il y a des fermes à slop, vous le disiez en introduction. On sait qu'il y a donc des producteurs de contenu qui peuvent se servir de ces générateurs d'images, de ces générateurs de sons et de textes pour essayer de, comment dire, de faire, vous voyez, de la b-testing, quoi, d'essayer de générer un maximum d'itérations du même poste pour essayer de trouver la formule de la viralité.
D'accord.
Ensuite, si vous êtes une entreprise, ça vous permet de créer des visuels, des textes et des sons sans rémunérer les gens.
Ah oui,
ça, d'un point de vue patronal,
pratique.
C'est toujours très pratique. Ensuite, si vous êtes Spotify, YouTube, Facebook, ça vous permet de dévaluer le travail humain et en plus d'entretenir la captation d'attention en produisant toujours plus de contenu. Et si vous êtes ensuite, là on arrive dans le politique, si vous êtes la fachosphère, si vous êtes le Rassemblement National, si vous êtes Reconquête, qui ont été parmi les premiers à utiliser ces outils de génération de réel, ça vous permet de donner de la substance en fait, à vos fantasmes racistes et xénophobes parce qu'en fait, c'est un outil qui va contre le réel et qui du coup vous permet de générer des choses qui n'existent pas.
C'est grâce au slop qu'un mouvement comme Reconquête avait l'air énorme sur Internet et en fait était petit électoralement parlant parce qu'il y avait une démultiplication grâce à l'IA ou...
En tout cas, ça leur permet de produire beaucoup plus de contenu politique, donc on pourrait appeler ça de la bonne vieille propagande, que leur capacité réelle ne leur permettait, au réel au sens du nombre de salariés qu'ils avaient, du nombre de militants qu'ils avaient. Et ensuite, si vous êtes, il y a une autre sphère qui l'utilise, si vous êtes le pouvoir aujourd'hui, que ce soit à France français, états-unien, israélien, ça vous permet de réécrire le passé et de fabriquer du consentement à vos politiques. Et là-dessus, bah, le plus spectaculaire, c'est Trump, qui a été décrit comme le premier président génératif par Wired. C'est quelqu'un qui se spécialise dans le brouillage cognitif. On se souviendra qu'en 2016, son directeur de campagne, Steve Bannon, à l'époque, avait théorisé l'approche qui disait « flood the zone with shit », donc vraiment
inonder
de merde la zone médiatique pour saturer la cognition. Et en fait, aujourd'hui, il utilise le slop IA à peu près tout le temps. Récemment, il s'est mis en scène en pilote d'avion avec une couronne sur la tête, littéralement en train de déverser du caca sur les manifestations No Kings.
Oui, donc ça, c'est lui qui l'a fait, ça vient de Donald Trump lui-même.
Ça vient du compte de la Maison Blanche, en tout cas. Lui, j'imagine qu'il est capable de faire un prompt à 78 ans, mais voilà.
Ça pourrait être horrible.
Quentin.
Ça pourrait être horrible.
Comment on peut détecter un slop ? J'essaie de me mettre à la place des gens qui nous écoutent là. Quand on est, je sais pas, sur les formats Reels d'Instagram, de TikTok, etc.
Bah vous-même, vous vous êtes fait piéger, Quentin, vous pouvez la raconter.
Je me suis fait piéger sur une vidéo de Rachida Dati, par exemple. Sur un détail, et c'est pour ça que c'était un slop, c'est qu'ils ont changé le logo de son suite par une marque de luxe. Sauf que la vidéo était la même que celle qu'elle a réalisée dans la ville de Paris.
Oui, c'était une maraude, enfin une mise en scène.
Mise en scène. C'est un slop et comment on peut le détecter ? C'est indétectable.
Ben évidemment, c'est indétectable. Et je pense que justement, la question qui est plutôt intéressante de se poser, c'est pourquoi est-ce que vous vous êtes fait piéger sur ce contenu-là en particulier ? Et la réponse que je pourrais vous apporter, c'est parce que c'est plausible.
Oui, mais normalement...
Il est plausible que Rachida Dati soit partie en Sweet Channel
faire gaffe.
Le problème, c'est que les plateformes, aujourd'hui, TikTok, Insta, etc., elles sont censées prévenir, normalement. Elles sont censées mettre un label pour prévenir que ce sont des vidéos générées par IA. Donc, ça veut dire qu'elles ne le font plus ?
Elles ne le font pas. Et puis, il y a même une hypocrisie assez incroyable de la part de ces plateformes qui, aujourd'hui, mettent tout à disposition des studios de création de slop, que ce soit TikTok, que ce soit Google, que ce soit YouTube, qui vous permettent, en fait, encore
donc,
plus
nos
facilement...
nos propres contenus à nous ?
Ouais, bien sûr. Et si vous voulez, le terminus de ça a été atteint avec OpenAI, qui a sorti récemment Sora 2, qui est un réseau social intégralement constitué de vidéos slop.
Vous avez raison, Jean-Marc, moi je vous suis, et puis trois vols dans une vie, c'est bien suffisant. Disait Quentin, lui, à Jean-Marc Jancovici, il y a quelques mois, Quentin qui, vendredi, oubliant totalement ce qu'il avait dit à Janco, faisait Paris-Nice aller-retour dans la journée, plus qu'un vol, un écocide, Quentin. 17 tonnes de CO2, flingué, c'était pas un slop. Tout ça pour prendre le soleil sur la promenade des Anglais et passer une tête au salon de l'IA de Sophia Antipolis. Quentin, je n'aurai qu'un mot.
Quelle indignité.
Alors, au salon de l'IA...
Alors, pas que, hein.
Comment ça, pas que?
Bonjour à votre maman.
Vous l'avez croisé ?
Qui m'attendait sur la promenade.
Oui, bien sûr. Bon, au salon de l'IA, on connaissait, j'imagine, les slops.
Eh bien, vous allez voir, parce que je suis à Sophia Antipolis, donc ça, c'est un drôle de coin du sud de la France où les pins parasols côtoient les bâtiments futuristes, une sorte de Silicon Valley petite mais provençale, posée entre mer et garrigue, située entre Antibes et Grasse. Le soleil tape déjà, je ressens bien les 10 degrés d'écart avec Paris. J'arrive donc à ce sommet sur l'IA.
Ça va, vous avez fait bonne route ?
Parfait, j'ai trouvé.
Super. Bon, ben bienvenue à cette 8e édition du Sophia Summit. Donc, comme vous pouvez le constater, tout se passe dans cette zone. Si vous voulez prendre un petit café, ça se passe par ici. Et là, les conférences sont actuellement en cours. Il y en a toutes les 45 minutes. Donc, si vous voulez aussi échanger avec les présentateurs, feel free.
J'attrape un café et je me pose dans cette salle. J'observe la tension de l'auditoire, ordi sur les genoux, graphique dans tous les sens. Et étonnamment, mes premiers essais sur notre mot du jour ne prennent pas.
Le slop. J'ai aucune idée de ce que c'est.
Le slop, en français ou en anglais ? Mais là, dans le contexte, je ne le comprends pas trop. Mais...
Hey, entre deux portes, je fais la connaissance de cette jeune femme. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Laurine. Je viens de sortir d'études de Polytech Nice-Sophia en mathématiques appliquées et en option data science. Le slop.
Est-ce que je vous apprends un mot ?
Oui.
C'est un peu un nouveau mot, hein. C'est ok, hein, personne ne l'avait ici. Hein. Même les grands chercheurs. Je me demande si j'aurais pas dû faire une conférence sur le slop, moi.
Ça pourrait être intéressant.
Ah oui, conférence que j'aurais appelée évidemment la fête du slop.
Très bien, Quentin.
Je donne la définition à Laurine. Des contenus numériques bricolés et médiocres, souvent générés à la chaîne, par l'IA, on vient d'en parler, pensés pour remplir, occuper l'espace et attirer du trafic, mais sans qualité ni valeur.
On peut voir sur les médias, sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses qui commencent déjà à être générées, que ce soit des textes, des images, des vidéos. Donc je pense qu'il va falloir se méfier, on ne peut pas croire tout ce qu'on voit n'importe où, même sur les médias.
Mais ça va, vous avez peut-être un peu de recul, mais est-ce que moi je l'aurai demain quand je vais voir une... Je prends un exemple. Cet été, je tombe sur une vidéo de trampoline de nuit avec des lapins qui sautent dessus.
Je l'ai vu aussi. Ah,
ça vous vidéo. Fait marrer.
Oui, oui.
Bah, moi,
oui.
J'y ai cru.
Non, mais... Ah, bah, c'est marrant, mais sur le coup. Mais après, il faut regarder les petits détails et plus en précision pour se dire, bah oui, c'est généré, c'est une fausse vidéo.
Voilà, je demande à l'étudiante qui sort fraîchement d'études s'ils ont abordé le sujet en cours.
On a eu un cours spécifiquement sur les deepfakes, donc la génération, mais aussi comment reconnaître les deepfakes. Quand on arrive à trouver des méthodes pour détecter les deepfakes, si on le met en open source, qu'on met ses études en open source...
Ça
va renforcer en fait la génération. Donc quand on fait une étude sur comment détecter la deepfake, ça va venir renforcer comment générer la deepfake le mieux possible.
Et c'est le serpent qui se mord la queue ?
Exactement.
Ma rencontre suivante est un ponte dans son domaine.
Bonjour, je suis François Pachet, j'ai 60 ans et je fais de la recherche en intelligence artificielle depuis toujours, je dirais. Le slop, oui, je vois très bien.
François Pachet, scientifique français, compositeur et chercheur reconnu dans le champ de l'intelligence artificielle appliquée à la musique. Il fut notamment directeur du Spotify Creator Technology Research Lab à Paris. Il est pionnier dans l'improvisation assistée par la machine et la modélisation de style musical à l'aide de techniques de l'IA. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, des morceaux créés par l'IA qui envahissent toutes les plateformes ?
Ben, je vais vous dire. Ce que j'en pense, c'est que si on considère que c'est de la musique entre guillemets de mauvaise qualité, on n'a pas besoin d'IA. Il y en a déjà beaucoup, faites par des humains et depuis longtemps. C'est ce que j'ai essayé de dire hier, il y avait une conférence là-dessus, mais il faut déjà regarder la situation. La situation, c'est qu'on a 100 millions de titres disponibles sur les plateformes, 100 000 de plus tous les jours, et que parmi tous ces titres, il y en a beaucoup qui sont médiocres déjà. Ou qui sont médiocres, c'est peut-être méchant, mais qui sont en tout cas similaires, très similaires à des titres existants. Donc il y a une baisse de la qualité de composition qui a été reconnue par plein de gens, pas par moi, par des journalistes, par des scientifiques, par des critiques musicaux, par des artistes aussi. Et je vais plus loin, je dis que c'est précisément parce qu'il y a autant de contenus très similaires que l'IA marche bien.
Mais est-ce qu'on peut quand même comprendre que les artistes eux-mêmes se sentent menacés ?
Mais cette menace, pour moi, est en fait une force de pression qui va pousser les artistes à être plus inventifs, plus audacieux, plus originaux, plus créatifs, même si le mot n'est pas très clair. Donc si vous voulez, ouais, il faut distinguer. Voilà. Du point de vue de l'auditeur, je ne vois pas le problème.
Et c'est ici qu'une artiste comme Rosalia, par exemple, marque son époque. Je lui parle de la mention « morceau généré par l'IA ». Deezer le fait, pas Spotify. Est-ce que c'est un problème ?
Écoutez, honnêtement, et je vous parle vraiment en citoyen libre, je n'ai pas de lien, je n'ai plus de lien avec ni les uns ni les autres. Il y a une option très défensive, c'est-à-dire que les streamers, les Deezer, Spotify, ne veulent pas qu'on les accuse. Grosso modo, c'est ça qui est en jeu. Et donc, ils essayent d'enlever les morceaux qui seraient entièrement faits par IA. Est-ce qu'il faut le faire ou pas ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut faire ce que fait Deezer ? Taguer, hein, les laisser, mais en disant, voilà, il a été fait par IA. En fait, pour moi, c'est un peu un problème qui n'a pas beaucoup de sens, parce que la plupart des morceaux ne sont pas faits entièrement par IA, ils sont faits partiellement. Donc, on est dans une zone très, très grise. Et je conseille aux auditeurs de se concentrer sur la seule question, est-ce que cette musique me touche ou pas ? Peu importe la manière dont elle était faite.
Et en quittant la salle, je repense à ce mot, slop, ce truc un peu moche, bricolé, fait pour remplir, et je me dis qu'il suffirait de pas grand-chose, hein. Un refrain généré à la va-vite, une boucle un peu trop simple, pour que quelqu'un, quelque part, se surprenne à la fredonner. Et c'est peut-être ça le vrai vertige, qu'un morceau sans intention réussisse malgré tout à nous atteindre. Le danger n'est pas qu'ils existent, mais la place que nous acceptons de leur laisser dans notre propre émotion.
Mais vous savez, Quentin, si ça se trouve, dès demain, au top des charts américains, on retrouvera ceci.
Mais d'où ça sort ? Mais d'où ça sort ?
Tout est possible, hein, vous savez.
Américain, en Dordogne.
Est-ce que c'est pas un peu la French Touch, finalement, aussi, quelque part ? Thibaut Prévost, est-ce que c'est un acte militant, aujourd'hui, de ne pas laisser de la place à ces slops, que ce soit une vidéo de lapin qui saute sur un trampoline, une chanson générée par IA ? Est-ce qu'il faut appeler les gens à se mobiliser, en tout cas à être attentif à ça, ou vous dites... C'est trop tard.
Non, moi je refuse de dire que c'est trop tard. Au contraire, alors sur les gens, je leur dirais de faire attention, d'essayer d'utiliser le moins possible effectivement ces générateurs d'images pour ne pas ajouter au contenu synthétique. Mais là où j'en attends énormément, c'est de notre profession à nous. Je pense que, et c'est ce qu'on fait voilà, sur Arrêt sur Image, on essaie de comprendre comment se fabriquent les récits médiatiques et ce qu'on peut faire aussi pour qu'il y ait plus de pluralisme. Et en fait, on voit aujourd'hui qu'on fait partie du problème en tant que presse, parce qu'on a tendance à ne pas nommer les choses. Je pense, voilà, par exemple, au génocide à Gaza, je pense à nommer le fait que Trump mène une politique fasciste. Et en fait, ne pas nommer les choses, c'est ajouter à la confusion de pouvoirs qui s'entretiennent déjà sur la confusion. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez, le gouvernement français a produit des pastilles assez récemment pour honorer l'anniversaire du droit de vote des femmes ou de la résistance. Mmh. Et ils auraient très bien pu le faire à partir des archives dont on dispose. Ils ont choisi de les générer par IA.
Ah oui?
Oui, ils ont choisi de les générer par IA. Et l'historienne Mathilde Larrère a dit que c'était quelque chose que c'était une insulte à la mémoire des femmes qui se sont battues pour obtenir le droit de vote. Et je pense qu'elle a parfaitement raison. C'est une pratique littéralement fasciste parce que c'est une réécriture et un effacement de l'histoire au profit d'une vision épurée quelque part et une vision qui bénéficie aux gens.
Désincarnée aussi.
Voilà, et absolument désincarnée. Et en fait, il faut comprendre que le pouvoir, que ce soit qu'il soit français, qu'il soit américain, ils ont tout intérêt à créer ce qu'ils appellent des hyperstitions, donc le fait de générer une réalité factice, de la balancer dans l'espace médiatique, et à force de répétition, de finir par lui donner de la plausibilité et du corps. Il y a un exemple en particulier pour vous montrer ce continuum-là, c'est la vidéo Gaza Riviera de Trump, qui montrait vidéo absolument abominable, ignoble, parce qu'en fait, qui montrait la transformation de la bande de Gaza en un hypothétique complexe hôtelier. Et donc cette idée-là, qui est absolument dégueulasse et complètement ahistorique, elle s'est retrouvée notamment à discuter dans les médias, notamment chez France Info, je me souviens.
Et on en a parlé dans plusieurs médias.
Dans plusieurs médias, oui, bien sûr.
C'est ressorti, c'est commenté.
Et c'est devenu un objet de débat.
Or, c'était typiquement, on peut dire, un slope, quelque part.
C'est absolument un slope. Et puis surtout, ça n'est pas censé avoir une quelconque plausibilité en termes de débat médiatique.
Cette étudiante, je reviens sur les deepfakes. Mm-hmm. Cette étudiante nous dit que la détection de deepfakes nourrit en fait leur génération. Est-ce qu'on peut l'expliquer, ça ? C'est-à-dire qu'elle a travaillé sur un programme qui va détecter que la vidéo fait une deepfake,
ouais,
et en le mettant en open source,
ouais,
ça va nourrir ceux qui vont vouloir en faire.
Bah absolument, parce qu'en fait, tout ce que vous allez mettre aujourd'hui dans l'espace informationnel va être digéré par les entreprises d'IA pour entraîner leur modèle à nouveau. Dans la majorité des cas, ce sera d'ailleurs illégal, c'est une pratique illégale. Mais encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que le slope n'existe en tant que paradigme que parce qu'on a laissé faire les entreprises de la tech dans une impunité légale totale depuis 15 ans. Elle existe parce qu'on les a laissé piller nos données, parce qu'on les a laissé voler les artistes, parce qu'on a laissé les algorithmes, enfin leur plateforme algorithmique diriger nos conversations sociales. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve, contrairement à l'étape précédente des algorithmes de recommandation, on se retrouve avec une hyper-personnalisation du contrôle.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Le phénomène du slope est-il si nouveau que ça? Avant, l'intelligence artificielle qui générait par paquet des titres accrocheurs qui, malgré leur débilité, captaient notre attention. Et si, je vais vous dire, la presse quotidienne régionale faisait cela avant. Jugez plutôt. Le Dauphiné, Ardèche, l'Asiatique, voleur de slip et saucisson avaient cette identité. La Nouvelle République, elle ne finit pas ses tomates et la situation dégénère. Ou encore, ça c'est dans le Progrès, l'adolescent se masturbait à chaque passage du tracteur. Décidément, Quentin, vous en avez fait des bêtises dans votre jeunesse. Bref, jouons avec l'ancêtre des slopes au Zoom Zoom Test. Car oui, bien avant que des petits génies de l'IA inventent ces contenus ridiculement racoleurs, comme par exemple les 10 pires citations de Manon Mariani, la troisième va vous étonner.
J'ai toujours rêvé de baiser un Africain.
Et il faut dire ce qui est, c'est quand même vraiment bien fait. Bien avant donc que l'IA ne génère des deepfakes de ce style, les fins limiers de la presse quotidienne régionale, section faits divers, avaient déjà l'art de trousser un titre qui claque, quitte parfois à flirter avec les limites de l'absurde. Je vous lis le début d'un titre sensationnaliste, à vous d'en deviner la fin.
Il y a des propositions ou pas ?
Évidemment. On démarre avec cette brève de la Dépêche du Midi.
Raison de le demander.
Donc Quentin se souvient sûrement, c'était le 9 janvier 2025, et le quotidien titrait « Totalement ivre, il conduisait une voiture sans permis, avec sa mère morte comme copilote, avec un poulet comme copilote, ou avec un gendarme en civil comme copilote.
Oh » Un goéland peut-être, non
B, le poulet.
Le poulet.
Le poulet, vous voyez le poulet.
Moi, je vais le gendarme.
C'est deux fois un poulet.
Ça, ouais, ça fait deux poulets. Oui, ouais, ça fait deux poulets. Un vrai poulet ou un vrai poulet ou faux poulet? Vrai poulet.
Vrai poulet.
Vrai poulet.
Bonne réponse de notre invité. Réponse d'effectivement.
Je l'ai dit aussi. Alors, non, je joue. Si, j'ai dit le poulet.
Très bien. Maintenant, alors, très bien. Vous aurez votre petit poulet.
Oui, merci.
Donc, c'est un vrai poulet.
Je vous rassure, la mère du conducteur ivre va bien. Et idem pour son copilote, un poulet au sens ovin du terme, pas un flic, donc, qui était parfaitement vivant et donc parfaitement en état de copiloter. Mais quittons le Midi pour un territoire que Quentin connaît comme la poche de son slip kangourou, la Normandie. Au son de ce véritable banger de notre base de son intitulée Accordéon Normand. Nous sommes au cœur du bocage virois, dans un écrin de verdure. Vire et sa célèbre andouille, dont je rappelle à Manon le procédé de fabrication, l'andouille est une charcuterie à base de chaudin de porc coupé en lanières avant d'être embossée dans une partie du gros intestin. Je vous en prie, Manon, si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Le quota de plaisir informatif de ce quiz étant atteint, retournons à Vire, théâtre de cette tragédie slopesque relatée par BFM TV, qui commence ainsi. Calvados, le bureau de poste de Vire, évacué après... Après quoi ? Après la découverte d'un camembert trop fait, considéré instable par les démineurs ? Après qu'une caisse de cidre artisanal a éclaté sous la chaleur, faisant croire à une bombe ? Ou après l'explosion d'un bocal de merde de vache ?
C.
Mais non, comment voulez-vous qu'un bocal de merde ?
Mais je sais pas.
Que ferait un bocal de merde ?
Il y a des collectionneurs, vous savez.
Ah, c'est vrai, Philippe Catherine, il collectionne des caca.
Les coprofiles. Eh bien, écoutez,
c'est le cidre, non ?
Manon, votre réponse, ça doit être complètement débile. C'est la bonne réponse, effectivement. Danger de la ruralité. Il s'agissait d'un bocal d'échantillons de lisier destiné à un laboratoire d'analyse resté en stand-by au bureau de poste pendant le pont du 15 août et qui, sous l'effet de la fermentation liée à la chaleur estivale, a littéralement explosé, dégageant une odeur fétide. De ma vie, je n'ai rien senti de pareil, déclara le directeur du bureau de poste. Ah bon ? J'ai rien senti de spécial, moi, aura déclaré Cyril, un touriste présent lors de l'explosion du bocal de merde, qui expliquera au policier qu'il avait connu bien pire dans son bureau lors de la journée Chili con carne fever à la cantine de Radio France. Mais restons dans le Calvados, on y est si bien, avec une info qui a fait le tour des salles de rédaction en juin 2025 et peut-être même ça a fait l'objet d'un Lacar News. Elle était comme hypnotisée. À 82 ans, sa mère part. Vivre en Côte d'Ivoire pour rejoindre un brouteur qui se faisait passer pour Frédéric Lopez ? Vivre au Burkina Faso pour rejoindre un brouteur qui se faisait passer pour George Clooney ? Ou assister à tous les concerts de la tournée mondiale de Vincent Niclot ?
B.
Là, c'était pas fini.
C'était fini, on écoute juste.
Je dis B, moi.
Réponse B, Manon.
Moi, j'aurais dit B aussi. Oui,
Burkina Faso pour un brouteur qui se fait passer pour George Clooney.
C'est votre nouvelle idole, Vincent Niclot.
Je veux dire A, je veux dire autre chose que les autres.
Oh, bien joué, Quentin. C'était effectivement la réponse A. Alors, je rassure les âmes sensibles. Alors, non, personne n'a jamais tout plaqué pour assister à tous les concerts de la tournée mondiale de Vincent Niclot, pour la simple et bonne raison que Vincent Niclot n'a jamais fait de tournée mondiale. C'est bien Frédéric Lopez que cet octogénaire pensait rejoindre en Côte d'Ivoire, ou quand l'exploitation sentimentale confine au slop, when the brooding meets the slop, dans la langue de Shakespeare. Et pour cette ultime question...
Partir toute seule en plus dans l'avion avec le petit truc pour aller rejoindre Frédéric Lopez.
Ça me fait trop de peine. Oh non, arrête.
Elle s'est mise en condition.
On
a fait l'émission là-dessus sur l'exploitation sentimentale. Ça peut arriver à tout le monde.
C'est vrai.
Pour cette dernière question, direction la perfide Albion avec cette info dénichée dans les pages du journal Sud-Ouest. Titre qui semble tout droit sorti du dernier cercle de l'enfer des slops. Complétez-moi ça. Le patient a un obus dans le rectum. Rend le bas de combat dans un hôpital anglais.
Ah, c'est pas possible.
Le patient était persuadé d'entendre des voix de l'au-delà. Il avait en fait avalé son appareil auditif.
Oh non.
Ou le patient sauvé de la mort après s'être tranché la main avec un sabre en faisant des maquis.
Ouais, les trois.
Ah, c'est bah non, là, on parle d'un article.
B.
Alors, A, là, A. Non, le rectum.
Le rectum,
oui,
Manon.
Tu veux que ce soit coupé.
Oui, parfait. Le rectum, c'est une bonne réponse. Évidemment.
Ça va s'en servir.
Je sais.
Sur un obus de 14, vraiment. Évidemment.
Bah, cette année, Roast Beef, vraiment prêt à tout pour attirer l'attention, s'exclame Cyril en régie. Et pourtant, derrière ce titre digne d'un slop, une histoire vraie, celle d'une soirée bien remplie, si j'ose dire. Puisque le petit kink de ce coquinou, dont seul l'anonymat aura été préservé dans l'affaire, aura nécessité l'intervention des urgentistes et des démineurs, patients qui, selon ses propres dires, auraient glissé et seraient malencontreusement tombés sur cet obus de 17 cm sur 6 en faisant le ménage dans sa collection d'objets militaires. Le bête accident domestique, quoi. Et aucun slop, ça ne pourra jamais le dépasser.
17 cm sur 6 ?
Oui, bah Manon, arrêtez de rêver. Victoire de la vérité vraie, victoire de Manon Mariani.
Il a dû glisser fort.
Et de haut. Peut-être que c'était un duplex et il est tombé d'un étage. Bref. À qui profitent les slops ? Ces articles, ces vidéos qui pullulent sur nos réseaux sociaux et qui ne sont l'œuvre que de l'IA. Le journaliste spécialiste du numérique Thibaut Prévost est toujours avec nous pour zoomer sur cette nouvelle forme de pollution numérique qui est vraiment partout, hein, on en parlait. Je disais, Thibaut, que 7% des articles produits chaque jour dans le monde sont des slops. Quel est le premier danger auquel on est confronté quand on sait que 7% des articles produits dans le monde sont des slops ?
Le premier danger qui me vient, c'est déjà que ce pourcentage va probablement augmenter et en fait le but de cette production, c'est avant tout d'affaiblir le réel, d'affaiblir le factuel d'ailleurs, parce que le réel n'est pas forcément factuel, mais en tout cas ça affaiblit le factuel, et pour nous qui travaillons justement dans un monde de factuel, c'est assez terrifiant comme perspective de se dire que les sociétés pourraient être organisées désormais autour d'une multitude de différentes réalités, comme une sorte de multivers fictifs, quoi, générés par IA.
Alors moi, je suis vraiment pas un spécialiste, mais à force de faire des émissions là-dessus, j'ai fini par comprendre quelque chose. J'ai l'impression que comme tout ce qu'on met, toutes les vidéos qu'on upload sur Internet aujourd'hui sont avalées et digérées par l'IA, en fait, il peut y avoir de plus en plus de fake news générées elles-mêmes par l'IA, parce que l'IA prend tout ce qui est sur le net, qui n'est pas forcément la vérité, pour nous raconter quelque chose quand on lui pose une question. Donc en fait, ça va s'auto-alimenter, il va y avoir de plus en plus de slop, en fait.
En fait, c'est intéressant parce que comme vous décrivez, ouais, effectivement, les systèmes d'IA se nourrissent d'absolument tout ce qui est produit sur Internet, y compris les contenus donc organiques. Mais alors la question, c'est que plus les systèmes se nourrissent de leur propre génération, si vous voulez, de leur propre vidéo, de leur propre son, de leur propre texte généré, plus il se passe ce que s'appelle de la consanguinité générative.
Consanguinité générative.
Ouais, c'est le terme, generative inbreeding. Et en gros, on considère que du coup, on observe une perte de compétences des systèmes d'IA quand elles se nourrissent trop de leurs propres données, de leurs propres créations.
Ils ont quand même des failles. Ok. Ouais.
Ah oui, ils ont des failles, Manon.
Vous parliez tout à l'heure de OpenAI qui a créé donc Sora 2. Ouais. Mark Zuckerberg, Meta, a créé Vibes aussi, donc des applications, des sortes de TikTok avec que des images générées par IA. Qu'est-ce que ça va changer, ce type d'application?
Ce que ça change, c'est que...
Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que tous les contenus limite générés par IA soient regroupés en fait dans un même endroit? Au moins, là, on sait qu'on va voir que ça, par exemple.
Ouais, mais ça crée des espaces informationnels nouveaux où, encore une fois, le principe, c'est toujours cette espèce d'affaiblissement du réel. Et en fait, on doit se poser la question de ce que font ces nouveaux médias, ces nouvelles techniques de communication, encore une fois, au corps social et à l'individu. Il y a le philosophe Fred Turner qui disait « Les médias de masse ont créé des humains de masse ». Et donc la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est que vu que les techniques de communication influent sur les modes de gouvernance, est-ce que les médias artificiels créeront des individus artificiels, en fait, à terme? Et comment est-ce que ça va faire à la politique, à l'organisation du corps social? Et c'est ça, moi, la question que je me pose quand je vois la prolifération de ces contenus.
C'est quoi les boomer traps? Les pièges à boomers.
Ouais,
est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
Les pièges à boomers, donc c'est quelque chose qui pullule pas mal sur Facebook, parce que Facebook est devenu le réseau social des boomers. Et en gros, c'est un dispositif de captation de l'attention, donc comme assez classique, mais qui obéit à des logiques assez particulières de récolte, de j'aime et de commentaires. Alors généralement, ça va être des êtres humains qui vont demander, qui vont appeler un petit peu à la pitié ou à l'empathie, des enfants avec des chiens ou ce genre de choses, des jolies jeunes filles qui vont être dans des situations pastorales, par exemple, et qui vont dire voilà, je sais que je suis pas Kylie Jenner, mais j'aimerais bien récolter un like, quoi. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle des boomer traps.
Et c'est quoi le but derrière des gens qui font ça?
Capter l'intention, maximiser l'engagement, donc la création, la génération de likes, la génération d'emojis, la génération de commentaires pour faire vivre le post, et en fait toujours monétiser l'attention, transformer l'attention collective en commodité financière.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Un génie de la tech aujourd'hui, il s'appelle Alexander Wang, à ne pas confondre avec le couturier de mode américain du même nom. Celui dont je vous parle aujourd'hui a 28 ans et il est l'une des figures les plus puissantes de l'intelligence artificielle mondiale. Alors Alexander Wang, qui passe son enfance à Alamos au Nouveau-Mexique avec des parents physiciens d'origine chinoise, il cartonne à l'école, participe à des concours de maths, publie du code en ligne à l'adolescence. À 17 ans, il remporte plusieurs Olympiades scientifiques et il décroche une bourse pour étudier au prestigieux MIT. Mais après quelques mois d'études seulement, il claque la porte de l'université pour monter sa propre entreprise. Il a 19 ans à ce moment-là et il fonde Scale AI. Son but, fournir les données qui permettent d'entraîner l'intelligence artificielle.
Alors, c'est-à-dire, Manon?
Alors, Scale AI emploie plus de 100 000 personnes dans le monde pour faire des tâches indispensables comme décrire ce qu'il y a sur une image, transcrire des enregistrements audio, vérifier si une réponse générée par une IA est correcte. Alexander Wang, évidemment, il a eu le nez. Le secteur est en pleine expansion à ce moment-là. Et au bout de 3 ans, Scale AI est valorisé à 1 milliard de dollars. Puis, 2 ans plus tard, sa valeur monte carrément à 7 milliards de dollars. Alexander Wang devient à seulement 24 ans l'un des plus jeunes milliardaires autodidactes au monde. Il bosse pour de grosses entreprises comme OpenAI, Google, Meta, Microsoft, mais aussi le Pentagone dans le cadre de contrats militaires. Début 2025, justement, il fait partie de ces dirigeants de la tech, ils sont nombreux, à être présents à l'investiture de Donald Trump. Il lui lui adresse même une tribune en déclarant que l'Amérique doit gagner la guerre de l'intelligence artificielle. Et puis, arrive le tournant Meta. En juin 2025, Mark Zuckerberg investit plus de 14 milliards de dollars pour acquérir 49% de Scale AI. En échange, il nomme Alexander Wang Chief AI Officer et lui confie la direction du Meta Super Intelligence Labs, une division interne chargée de combler le retard pris face à ses concurrents sur l'intelligence artificielle. Alexander Wang quitte donc la direction de Scale AI et devient une véritable nouvelle figure de Meta. Il prend la tête de centaines de chercheurs, pilote des coupes massives dans les équipes et plus de 600 postes sont supprimés en octobre. Dans les couloirs de la Silicon Valley, on dit déjà de lui qu'il pourrait devenir le nouveau Sam Altman, le boss d'OpenAI, son rival le plus redoutable.
Affaire à suivre.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
L'élégance n'est pas vestimentaire, elle réside dans l'attitude, disait Audrey Hepburn. C'est pas faux, disait Pierre Courade en s'affalant bruyamment dans le canapé d'un collègue qu'il avait invité à l'apéro avec au pied des charentaises qu'il lui avait empruntées parce que, je cite, « Ton parquet est hyper froid, comment en 2025 t'as pas le chauffage au sol ?» avant de tirer nonchalamment sur la braguette de Quentin, enfin je cite encore « Qu'on voit si ce slop lui fait une belle bûche. »
Non, chic, c'est pas ce qui s'est passé.
Le chic, c'est
et
un peu
ça, c'est du slop, c'est le problème de la désinformation.
Vous validez, Pierre ?
Le chic,
je valide.
Le chic, l'élégance intemporelle, c'est Pierre Courade qui sent encore très fort la crème de moule pour des raisons que j'expliquerai dans un prochain épisode. Pierre, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit sur les slops en une minute chrono.
Je dois dire que vous avez un très beau slip couleur kaki, Quentin, prêt pour faire la guerre, faudra juste changer de calibre. Mais aujourd'hui, on n'a pas seulement parlé de slip, mais surtout de slop. Ce sont des vidéos, des images de basse qualité, totalement générées par l'intelligence artificielle. Pour en parler avec nous, le journaliste Thibaut Prévost, spécialiste de l'univers numérique. Pour lui, les slops, c'est vraiment la boue d'Internet, de la bouillie, comme son nom l'indique. Aussi inintéressant que dangereux, il prête à confusion et rend addict les utilisateurs des réseaux sociaux. On en trouve essentiellement sur TikTok, mais aussi sur Facebook. Autant dire qu'il touche les plus jeunes et les plus âgés. Sur Facebook, il y a même un terme qui a été inventé, les boomer traps, les pièges à baby boomers, des images mignonnes comme des lapins qui font du trampoline. On sait tous que c'est du fake, surtout quand on remarque que Quentin lui a liké, c'est quand même un indice irréfutable. Mais derrière, c'est un piège qui se referme, notre attention est monétisée et ça va plus loin. Notre invité nous a expliqué que les slops étaient aussi présents sur les plateformes de musique, des titres générés par IA, même Cyril s'y est trompé. En même temps, difficile de faire la différence entre un titre de U2 et une musique synthétique. Mais c'est ça le risque principal des slops. D'après notre invité, ne plus être capable de déterminer le sens des mots, des images, des sons. On perd notre destin collectif. C'est voulu par certains politiques et par les milliardaires de la tech divisés pour mieux régner.
Cyril, je crois qu'il y avait un mot de trop dans cette chronique, peut-être.
Plusieurs. Ouais. C'est trop long, c'est-à-dire plus d'une minute. De toute façon, au mois de décembre, c'est pareil.
Adieu, Pierre Courade. Merci, Pierre. Aucune vidéo slop ne pourra réussir à imiter son style unique entre raffinement et poésie. Voici Harold Barbet.
Quand j'ai voulu montrer à ma fille de 11 ans une vidéo trop marrante d'une vieille dame qui a la colique à la caisse d'un supermarché, elle m'a immédiatement rétorqué que c'était une vidéo créée par l'IA, une vidéo slop. Ah bon, c'est certaine ? La colique est si bien faite, on dirait celle du chat. D'après Marc Org, professionnel de la communication, on ne pourra plus avoir confiance en rien ni en personne bientôt. Alors ça, mon Marcus, ça s'appelle la vie. Genre, si tu découvres à 48 ans seulement que tu ne peux faire confiance à personne, t'as peut-être vécu un peu trop longtemps chez ta mère. Par contre, quand je lis dans le dossier de presse sur le slop que bientôt on ne fera plus la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux sur les réseaux sociaux, là j'avoue que je suis surpris. Genre, tout est faux sur les réseaux sociaux, non ? Je pensais qu'on était tous d'accord là-dessus. Vous avez déjà vu la photo de Cyril sur les réseaux sociaux d'Inter ? Il est tout sourire. On dirait qu'il a enfin réussi à prendre la place d'Adèle Vendrette. C'est ma deuxième année dans l'émission, j'ai jamais vu sourire une seule fois dans la vraie vie. Jusqu'à ce que je tombe sur cette photo, la seule fois où j'avais vu ses dents, c'est un jour quand il a déballé un foie de veau pas cuit d'un papier aluminium avec un petit rire de sadique. Au début, j'ai pensé qu'on lui avait placé des élastiques le temps du cliché. Et finalement, la photographe d'Inter m'a dit qu'elle avait dû pousser un petit trisomique aveugle dans l'escalier pour réussir à lui décrocher un sourire. Faut arrêter de croire tout ce que vous voyez sur Internet. Les gens qui se filment en train de pleurer sur Instagram, c'est sincère, ça, pour vous ? Ça a la même authenticité qu'une doudou de North Face achetée sur Vinted. Les vidéos d'interaction de 10 secondes d'humoristes là, qui voudraient nous faire croire que sur un spectacle d'une heure, ils sont drôles, c'est pas fake, ça ? Comment tu t'appelles ? Sandrine ? Oh, la gueule du prénom ! Du grand stand-up, assurément. Le pire, c'est que ça fait un effet boule de merde. Il y a plus de créateurs de contenu qui se lancent dans le stand-up aujourd'hui que de gens qui chopaient le Covid en 2020. Mais ils ont raison, ça marche. On est entré dans l'ère de la scatophilie culturelle. Alors attention, hein, même si ça marche, ça veut pas dire que c'est bien. Les 12 coups de midi, ça cartonne. Et pourtant, votre cerveau, ça lui fait le même effet que si vous vous enfonciez un crayon à papier très profond dans le trou de nez. N'ayez pas peur des répercussions, Mathieu. Il y a peu de chances que les spectateurs des 12 coups de midi écoutent France Inter. On ne risque rien. Évidemment que ça va devenir de plus en plus dur de distinguer le vrai du faux. L'autre jour, je suis tombé sur une vidéo de Rachida Dati en train de ramasser les poubelles dans Paris. Je me suis dit, ah bah là, eh, c'est un peu gros quand même. Eh ben non, Rachida a vraiment ramassé les poubelles dans Paris. Et elle nous l'a dit, avec moi, Paris sera plus propre et plus sûr. Voilà, maintenant c'est fini. Plus besoin de nettoyer ses WC chaque soir. Rachida passera dans chaque foyer parisien avec son pistolet applicateur canard gel. La petite noisette dans votre cuvette, un bisou sur le front et bonne nuit les petits. Bravo Rachida, ça c'est du courage. Rien que le fait d'avoir mis le manteau jaune fluo et d'avoir adressé la parole au gars des poubelles, elle a dû avoir la nausée, la pauvre. Elle en a gerbé dans son col roulé Gucci. Mais elle a tenu face caméra, les lunettes impeccables, son vomi dégoulinant dans son soutien-gorge. Elle a pas flanché une seconde pour nous vendre du fake authentique, du fake comme on l'aime. Et tout ça sans IA, c'est bien Rachida, ma championne. Seule face à l'intelligence artificielle, telle une résistante, la John Connor du numérique. Et puis si là, les gens croient vraiment à ça, bah tant pis pour eux, hein, c'est qu'ils sont vraiment cons. On dit que le slope va tuer Internet et les réseaux sociaux. Bah c'est plutôt une bonne nouvelle, ça, non? Il était temps que quelqu'un s'en charge, et le plus vite sera le mieux.
Merci beaucoup, Harold Barbier. On vous retrouve la semaine prochaine et en tournée avec votre spectacle demain à Clermont-Ferrand, le 2 décembre au Zénith de Nantes, en première partie de Gojira, tiens donc. La Rochelle, Cholet et plus y affinité. Merci Thibaut Prévost de nous avoir expliqué les slopes. On vous retrouve, je le rappelle, sur le média Arrêt sur Image, et je rappelle évidemment votre dernier livre, Les Prophètes de l'IA, pourquoi la Silicon Valley nous vend l'apocalypse chez Lux Éditeur. Merci d'avoir été avec nous. Zoom Zoom Zen.